Bonjour, on se retrouve sur les ondes de Radio Galère pour notre émission hebdomadaire du mardi consacrée à l'actualité internationale. Et on retrouve avec plaisir, en technique, Louise, qui est un des nouveaux visages de la radio, qu'on remercie d'être avec nous. Bonjour Louise. Et puis bien sûr, je suis en compagnie d'Habib. Aujourd'hui, Roselyne n'est pas là. Mais vous allez voir qu'on a préparé ensemble une partie de l'émission. Je vais commencer par des petites nouvelles, enfin une nouvelle qui a du poids, mais sur laquelle je reviendrai parce que la semaine prochaine, donc l'émission mensuelle, donc mercredi prochain, qui sera je crois le 14 décembre de 20h à 21h30, je ferai un point sur la situation de la Chine, non pas au quotidien, parce que ça vous avez des informations qui valent ce qu'elles valent, mais sur la position de la Chine à la suite du 20e congrès du Parti communiste chinois qui s'est tenu donc à la fin du mois d'octobre et qui permet de mettre en perspective toute l'évolution d'une part de ce parti qui a été créé donc il y a 101 ans cette année et d'autre part l'évolution de la République populaire chinoise qui a été créée, vous le savez, en 1949, le 1er octobre. Donc elle est plus jeune que le Parti communiste chinois. Et simplement, pour faire le lien avec cette émission future, je vais vous dire quelques mots sur un décès qui est intervenu dans le groupe des dirigeants historiques de la Chine populaire. Il s'agit du décès de Yang Zemin. Donc ça s'est passé la semaine dernière. Yang Zemin, qui a été un dirigeant tout à fait éminent à différents niveaux dans sa province. Ensuite, il a été maire assez longtemps de Shanghai. Et il a eu tout, surtout président de la République populaire et secrétaire général du Parti communiste chinois. Dans une période qui était particulièrement importante, puisque c'est lui qui a été chargé d'assurer la transition entre le choc qu'ont constitué les événements de la place Tiananmen et la relance de l'ouverture et de la nouvelle politique de la Chine, tout en maintenant ferme le cap donc du parti au pouvoir pour faire de la Chine une puissance moderne, développée, ce qu'elle est en train de devenir, chacun le sait, et ce qui n'était pas acquis. Un mot simplement sur les événements de Tiananmen. Il faut savoir que les événements de Tiananmen étaient coïncider, ce n'était pas tout à fait par hasard, avec l'invitation officielle par la Chine et par son président de l'époque, du président Gorbatchev, qui venait ainsi à Pékin célébrer les retrouvailles sino-russes, comme on dit, ou sino-soviétiques plus exactement, puisque l'URSS existait encore, on est, vous savez, au printemps de 1989. Et qu'est-ce que venait dire Gorbatchev? Et c'est là que tout s'est joué, finalement. Il venait dire « faites comme nous, je simplifie », et c'était bien ça l'idée. Et « faites comme nous », on a compris après, même si on n'a pas compris sur le moment, parce qu'on était bercé dans ces mots de perestroïka, glasnost, etc. On n'a pas compris que « faire comme nous », dans l'esprit de Gorbatchev, et ça se confirmera après, et ça se confirme aussi dans l'opinion publique russe actuelle très largement, ça veut dire « lâcher tout ». Lâcher tout, c'est-à-dire qu'on n'a réussi à rien, ça marche mal, notre système, il faut en changer. C'était ça la leçon de Gorbatchev. Alors, il était venu pour la tenir sur la place Tiananmen à la foule, et puis quand même la direction chinoise ne l'a pas laissé sortir faire le meeting sur la place avec les étudiants, a gardé son message pour elle, et après elle a réfléchi. Elle a réfléchi en disant, mais si c'est ça, et surtout elle a réussi, elle a réfléchi en 90, en 91, quand on a vu qu'effectivement, l'aboutissement de l'abandon de Gorbatchev, du pouvoir soviétique et la dissolution de l'Union. Bon. Et donc à partir de ce moment-là, il y a une période de rétablissement de l'ordre et Yang Zemin est le président qui va ensuite passer à la nouvelle phase une fois que ce recalage, c'est-à-dire le Parti communiste chinois, après Tiananmen, décide, j'en parlerai plus abondamment dans l'émission de mercredi prochain, décide de maintenir le cap, de dire ben, on n'a plus d'alliés soviétiques, l'URSS a disparu, mais nous, on a un projet. Le parti est au pouvoir. Il a un projet qui est un projet de développement de la société chinoise et de mettre fin aux humiliations subies dans la période coloniale, en gros de 1850 à 1949. Et nous n'abandonnons pas ce projet. Et Yang Zemin a été le premier des trois présidents qui a remis la Chine sur les rails du développement selon ses lignes propres. Il a été suivi par par Hu Jintao après, et il a été suivi, lequel a été suivi par Xi Jinping, l'actuel président. Donc c'est un personnage central dans ce tournant, qui est un des tournants parmi d'autres, car ce qui caractérise l'histoire de la République populaire chinoise, c'est que le parti reste au pouvoir, et c'est le parti qui prend lui-même les tournants que la situation géopolitique et géoéconomique mondiale lui impose. C'est-à-dire, le parti ne se dissout pas en disant « Ah ben, on a raté ». Il dit « Là, on a fait des erreurs. Là, il y a une évolution de la situation qui fait qu'on doit faire autrement. On fait autrement, mais nous restons au poste de commande. » Et ça, c'est central. Et c'est central toujours aujourd'hui. Et ça a été réaffirmé à l'occasion du 20e congrès par le président actuel. C'est-à-dire, le parti est capable de faire des virages ou de rectifier, alors les virages, c'est ce qu'on présente nous comme des aventures, en fait, de rectifier son orientation. Il le fait tous les 5 ans, donc au bout de 5 ans, il fait le bilan de ce qui s'est passé, de ce qu'il a fait, des difficultés qu'il a eues, des obstacles extérieurs qu'il a rencontrés, parce que la Chine ne vit pas toute seule dans le monde, hein, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à elle, certains lui veulent du bien, d'autres lui veulent du mal, et donc au bout de 5 ans, on fait le bilan et on dit, on continue dans cette ligne, ou on retouche, et on retouche dans telle et telle sorte. Alors quelquefois, les inflexions sont fortes, et j'introduis un peu l'émission comme ça, les inflexions sont fortes, mais le parti n'abandonne pas la partie. C'est-à-dire, il dit, on reste au pouvoir, on a une direction qui s'est peut-être trompée, elle a fait des erreurs sur telle et telle chose, on va rectifier le tir, mais on ne lâche pas le pouvoir. C'est ça, et c'est ça qui est très très mal compris en Occident, parce que le rêve serait effectivement un rêve qui est enfin un Gorbatchev chinois qui lâche tout, et à ce moment-là, il y aurait un pillage de l'économie chinoise qui maintenant suscite beaucoup d'appétit au profit de ceux qui ne sont pas très contents de son évolution avec tous ses côtés positifs. Voilà. Ça, c'est quelques mots sur Yang Zeming et sur l'émission donc, de mercredi prochain sur la Chine après le 20e congrès. 20e congrès qui fait écho, mais j'en reparlerai. Ne nous éternisons pas là-dessus. Ensuite, je voulais dire quelques mots. Alors, je parle de la Chine parce que dans les petites nouvelles de la semaine dernière, il y a une qui est relativement passée inaperçue, c'est qu'il y a eu des manifestations pacifique, mais assez étonnante et inattendue à cet endroit-là, à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Alors, je situe, Oulan-Bator, c'est la capitale de la Mongolie. Mongolie, en tant qu'État indépendant, puisque vous savez qu'il y a une Mongolie intérieure qui est une province chinoise, et plus au nord, il y a une Mongolie historique qui, dans la capitale, est Oulan-Bator. Alors, situons la Mongolie pour ce qu'elle est. La Mongolie, c'est 3 fois la superficie de la France, en gros, et c'est 3,5 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde, parce que c'est la steppe d'un côté, le désert de l'autre. Donc il n'y a pas de quoi alimenter une économie très très prospère. Mais la Mongolie a ceci de particulier qu'elle a des rapports, elle a toujours eu avec la Chine qui est voisine, des rapports un peu compliqués. Alors c'est d'abord une histoire très très ancienne, puisque vous savez qu'il y a eu un empire chinois dirigé, il y a une dynastie mongole qui a été donc à l'origine de l'introduction du bouddhisme sur leur territoire chinois, bouddhisme importé d'Inde, non ? Mais donc ce voisinage qui était expliqué par des appétits de la population mongole, même petite, mais avec des appétits de terre, avec des appétits de nourriture régulière, avec des envies de luxe comme elle voyait dans la Chine voisine, c'est ce qui a expliquer l'arrivée, la prise du pouvoir de la dynastie mongole. Pour autant, les rapports de nombre, je vous dis, qui étaient les mêmes à l'époque, les 3 millions de Mongols actuels par rapport au 1,4 milliard, ça pèse pas très lourd. Et dans le fond, même si vous mettez un Mongol à la tête de la Chine reste la Chine parce que la masse chinoise est telle qu'on ne peut pas la diriger comme ça. Bon. Donc, relation compliquée, c'est-à-dire que ces Mongols, toujours peu nombreux, ont tendance, et c'était vrai encore, ça s'est confirmé après la prise du pouvoir du Parti communiste chinois en 1949, à se montrer distants de la Chine. Alors d'une part par l'effet de masse, c'est-à-dire que l'arrivée de Chinois qui viennent pour commercer, des commerçants, des industriels, sur le territoire de la Mongolie, ça passe tout de suite pour une invasion. Parce que dans une ville comme Oulan-Bator, où il y a en gros 1 million de personnes, si vous faites arriver 500 000 Chinois, c'est pas imaginable, mais même 20 000 ou 30 000 Chinois, le Mongol, de base, il a raison, il se sent envahi. Et donc le rapport entre la Mongolie et la République populaire de Chine est compliqué. À tel point que pendant très longtemps, et c'était encore vrai jusqu'à des époques récentes, la Mongolie avait tendance à s'appuyer d'abord sur l'URSS et plus sur la Russie, que sur la Chine. La Chine, ça paraissait être trop près, trop inquiétant, trop gros, trop envahissant, etc. Et donc la Russie avait un lien plus tutélaire avec la Mongolie. Alors c'était un lien beaucoup plus supportable pour les Mongols, puisqu'en fait Moscou est très très loin, on est au bout des grandes plaines de la Sibérie, etc. Et donc pour les Mongols, c'était une assurance d'un soutien de poids. Ça faisait contrepoint un peu à une influence chinoise qui était toujours difficile à gérer. Et donc ces rapports étaient stabilisés un peu comme ça, y compris depuis la révolution chinoise. Bon. Ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est qu'il y a eu une évolution des rapports entre la Chine et la Mongolie qui s'est concrétisée, et là on est tout à fait dans l'actualité, par la réception à Pékin du président mongol, il y a de ça 15 jours ou 3 semaines. Réception tout à fait officielle, qui montre que les rapports se sont beaucoup transformés, c'est-à-dire que la Chine a réussi, je n'allais pas dire à apprivoiser les Mongols, mais à se faire qu'ils soient moins inquiets de la présence chinoise. La Chine a réussi à les impliquer dans la politique de la route de la soie, la nouvelle route de la soie. Et la Chine, surtout, a organisé avec eux, mais ça ne s'est pas passé il y a 15 jours, un commerce international très, très élevé. Il faut savoir qu'en gros, les échanges entre la Chine et la Mongolie représentent 70% du commerce extérieur de la Mongolie. Bon. Mais comment expliquer ça autrement? S'il y a ce voisinage, et puis il n'y a pas d'autres clients, mais la Chine est un client de taille, je vais vous dire, pour un certain nombre de produits de base, et puis elle fabrique beaucoup de choses, donc sur le marché mongol, on trouve effectivement beaucoup de produits fabriqués en Chine. Ça, c'est pour donner le cadre. Ce qui a facilité aussi les relations améliorées, disons, entre la Chine populaire et la Mongolie, c'est que, assez souvent, du fait des excellentes relations qui existent aujourd'hui entre Moscou et Pékin, la Russie est intervenue pour, un peu comme le grand frère qui vient pour dire aux Mongols « mais n'ayez pas peur ». On les connaît, on travaille avec eux, et donc si vous avez des difficultés, si vous êtes inquiet de leur poids, c'est effectivement très effrayant pour 3,5 millions de personnes, cette Chine à côté, on est là et on évitera, vous ne vous ferez pas marcher sur les pieds tant que nous serons là. Et donc ça a baissé les inquiétudes, les préventions mongoles traditionnelles, enfin de longue date, par rapport au régime chinois. Ça c'est tout à fait positif. Et ça s'est amélioré d'autant mieux que les relations économiques sont devenues très intenses, puisque, alors, je vous dis en quelques mots, la Mongolie, avec son immense territoire, est un producteur considérable de charbon, est un producteur de cuivre, est un producteur de gaz naturel, est un producteur de toute une série d'autres minerais, de terres rares, etc. Et donc, en fait, quand je vous ai dit le mot charbon, par exemple, vous comprenez bien que le débouché du charbon de Mongolie, c'est évidemment la Chine. Hein, parce que la Mongolie, étant un pays enclavé, n'a pas accès à la mer. La Russie n'a pas besoin de charbon, puisqu'elle en a. Et donc, effectivement, dès l'instant où la Chine dit à la Mongolie, eh bien, je vous achète du charbon, c'est elle qui achète 80% du charbon mongol. Bon, ça va de soi. Et les relations se sont améliorées au point que, alors c'est là que ça devient cocasse, la méfiance des autorités mongoles par rapport à la République populaire chinoise était telle que jusqu'à il y a très peu de temps, c'est-à-dire il y a quelques semaines, l'exportation du charbon mongol se faisait par camion. Alors imaginez, alors je ne parle pas de quelques tonnes, je parle de plusieurs dizaines de millions de tonnes par an, et vous aviez un des points de passage, il y a quelques points de passage frontaliers entre le nord de la Chine et la Mongolie, vous aviez des files de camions, mais ce n'était pas un embouteillage sur la A7, c'était des dizaines de kilomètres de camions sans arrêt toute l'année, etc. On comptait à ce point frontière des 10 ou 15 000 camions jour, toute l'année, tout le temps. Bon, il se trouve qu'en septembre, la voie ferrée qui relie donc le gisement de charbon à la Chine a été inaugurée et ça a changé. Mais faire que la confiance soit suffisante pour que les Mongols aient décidé d'accepter qu'il y ait une voie ferrée qui aille en Chine, ça veut dire qu'une voie ferrée, on ne la raille pas d'un coup de plume de la terre, et ça veut dire que les relations se sont stabilisées. En plus, et je continue sur cette question des transports, ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'espèce de parrainage ou la tutelle morale de la Russie a fait qu'il a été décidé, dans le cadre de la nouvelle route de la soie, d'avoir un passage, donc Chine, Mongolie, Russie, Europe, qui va jusqu'à Helsinki, qui permet aux fameux trains chinois qui exportent les marchandises chinoises et qui importent des marchandises européennes de parcourir ce trajet-là. C'est-à-dire, c'est une autre variante de la route de la soie, la route ferroviaire de la soie, puisque les autres variantes passaient plus au sud, passaient par le Kazakhstan directement en Russie. Donc la Mongolie n'était pas touchée, elle était hors jeu. Elle est rentrée dans le jeu. Et c'est ça qui est important à noter. Alors pourquoi je parle de la Mongolie maintenant ? Parce qu'il s'est passé la semaine dernière une chose assez étonnante, une manifestation dans la capitale Oulan-Bator, où la foule est rentrée à l'intérieur du palais du Parlement. Alors, imaginez une espèce de réédition de la manifestation du 6 janvier 2021 à la Maison-Blanche, mais beaucoup plus tranquille, moins de monde parce qu'il n'y a pas tant de Mongols que ça, mais une foule qui monte dans les locaux donc, de l'Assemblée nationale mongole pour protester. Et ça, c'est un événement qu'on n'avait jamais vu en Mongolie. Et contre quoi elle protestait ? Alors c'est là que ça devient très très intéressant et que ça renvoie un peu aussi à l'histoire chinoise. La foule protestait parce qu'il s'est avéré que ce fameux trafic de charbon avec des camions, donc ce charbon qui allait donc de Mongolie en camion jusqu'à des centrales thermiques, puisqu'il s'agissait de charbon pour faire fonctionner les centrales thermiques, dans le nord-ouest, nord-nord-est de la Chine. Bon. Il y a eu pendant un certain nombre d'années des pertes. C'est-à-dire que tout le charbon qui était envoyé depuis la Mongolie n'arrivait pas dans les centrales thermiques. Donc il y a eu un trafic. Mais un trafic, alors, quand je vous dis de l'ordre, ça a été estimé, de 6 millions de tonnes de charbon, hein, trafic considérable, c'est des milliards de dollars qui ont été... Bon. Et il se trouve qu'il y avait, des deux côtés de la frontière, je n'attaque pas les Mongols, pas plus que les Chinois, il y avait des gens qui avaient prospéré, des Mongols et des Chinois, qui étaient complices pour que tout le charbon n'arrive pas à destination, dans les centrales thermiques, où il devait être brûlé. Bon. Et donc, ce que la foule réclamait, je dis très pacifiquement, mais elle disait, on veut savoir qui sont les Mongols qui se sont livrés à ce genre d'activité, qui sont des voleurs, des grands trafiquants. Hein. On veut le savoir parce qu'il faut, qu'ils soient désignés, puis il faut qu'ils soient punis. Et qu'est-ce qui a donné cette idée à la foule mongole ? Mais c'est que du côté chinois, et là on n'en a pas beaucoup parlé, les auteurs du trafic ont été identifiés, connus, arrêtés, jugés et exécutés. Ils sont tous morts, les trafiquants chinois. Alors ça, c'est une autre indication qui me permet aussi de reparler de l'émission spéciale de la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la peine de mort existe encore en Chine et que le Parti communiste tient absolument à ce que des trafics de cette ampleur-là ne prospèrent pas sur le territoire du pays. Et donc l'exemple, alors ce qui est très étonnant, c'est que ça s'est lu donc dans la presse internationale, cette manifestation, ça s'est lu dans la presse mongole, elle existe aussi, et dans la presse chinoise, je n'ai pas trouvé de traces de la manifestation, oui, mais de l'exécution des trafiquants, non. Parce qu'effectivement, ça c'est une leçon à caractère interne. Et ça fait partie de la politique de la direction chinoise actuelle en disant « Non, la corruption, on n'en veut pas, et il ne s'agit pas de bricoles, il s'agit de milliards de dollars, là. Hein. » Et donc, qu'il soit bien clair, alors ils ont déjà emprisonné un certain nombre de milliardaires chinois, ça on le sait, ils ont dit à d'autres de se calmer un peu et de moins travailler avec les puissances étrangères, et là, ça a été radical, c'est-à-dire que cette leçon qui ne nous a pas été servie en Occident, pour les gens qui en Chine, parce qu'il ne faut pas rêver, il n'y a pas d'angélisme là-dedans, pour les gens en Chine qui, motivés par l'appât du gain, motivés par des convictions politiques ou manipulés à la limite par des puissances étrangères, qui voudraient se livrer à ce genre de trafic, il y a un danger réel. Et ça, le Parti communiste chinois, il tient beaucoup. Il y a à l'intérieur du Parti communiste chinois 96 millions d'adhérents, un mécanisme très au point de répression de la corruption. Parce que si le parti qui est censé être la partie la plus militante et la plus évoluée de la population chinoise, 96 millions sur 1,4 milliard, c'est pas beaucoup, mais si les gens qui sont au parti ne sont pas des militants honnêtes, avec les mains propres et tout, le parti court un très très grand danger. Donc là, ce genre d'exemple, en disant ben, les trafiquants, ceux qui ont volé plusieurs milliards de dollars au commerce chinois, hein, sont punis. Et ils sont punis d'une façon radicale, que ça se sache. Et je peux vous persuader, je peux vous être sûr que dans les profondeurs du Parti communiste chinois, le message passe. le message passe très très bien. On ne joue pas à ce jeu-là. Hein. C'est pas du tout, c'est pas un dessous de table, un pot de vin. C'est très très grave. C'est 6 milliards de dollars volés. Hein. Donc c'est pour dire, ça on veut pas. C'est tout. C'est clair que c'est une manifestation de discipline tout à fait claire. Voilà. Mon passage par la Mongolie est achevé. Je vais arriver à d'autres considérations, un petit peu sur la Libye. Un peu sur la Libye, parce qu'on est en décembre 2022, et vous vous souvenez peut-être qu'en décembre 2021, il devait se tenir une élection générale pour créer un gouvernement et créer et élire un président pour la totalité de la Libye. Bon, ben, vous vous souvenez que cette élection n'a pas eu lieu, elle n'a toujours pas eu lieu 12 mois plus tard, et on n'en prend pas trop le chemin. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, il y a à la tête de la Libye, parce qu'il faut bien mettre quelqu'un, il y a un gouvernement de transition qui était chargé d'organiser les élections. Et après tout, comme les élections ne s'organisent pas, eh ben, la transition peut durer alors 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin tant qu'il n'y aura pas d'élection, le gouvernement de transition est là. À défaut d'autre chose, puisque par là, le pouvoir réel est partagé, on le sait, entre ceux de l'Ouest et ceux de l'Est, etc. Je ne rentre pas trop dans les détails. Donc, de fait, on a une espèce de pouvoir qui est reconnu par la communauté internationale, enfin, par l'ONU et tout, au titre d'organisateur de l'élection. Et comme il n'arrive pas à organiser les élections, ben, il reste là. Donc, il y a un... Bon. Alors, il ne se passe rien. Chacun continue ses activités. On ne s'entretue pas trop entre l'Est et l'Ouest pour l'instant. Et on attend la suite des événements. Alors, quelle suite il y aura aux événements? En fait, cette espèce de stagnation de la situation libyenne, à qui elle profite? Ben, elle profite d'abord, et c'est ça qu'il faut avoir en tête, à ceux qui ne veulent pas que la Libye ait un gouvernement vrai. Hein, un gouvernement de transition qui est juste là pour les affaires courantes et pour organiser des élections qui n'arrivent pas à organiser, ça peut durer autant de fois, autant d'années que les États-Unis le souhaitent. Je vais être plus clair, que les États-Unis le souhaitent. C'est-à-dire qu'on a détruit un pays et on veut qu'il reste détruit parce qu'au fond, ça profite. Alors, à qui ça profite? Bon, ça profite à des gens qui s'enrichissent sur place, ça profite à des gens qui organisent le trafic des immigrants et africains. Ça profite à des gens qui vendent du pétrole dans des conditions qui ne sont pas trop surveillées par la société nationale officielle pétrolière libyenne qui ne contrôle pas tout. Hein. Donc ça profite à beaucoup de monde. On a une espèce de zone de non-droit, un pays qui n'est pas un pays, où chacun fait ses affaires. Et ce qui a amené à en reparler, et ce qui m'amène à en reparler, c'est qu'il se confirme, et ça a été confirmé non pas par un Libyen, mais par le président du Nigeria, le président Buhari. Alors je le rappelle, le Nigeria, c'est presque 200 millions de personnes. C'est une grande puissance en Afrique, puissance pétrolière, industrielle, etc., qui a dit qu'il constatait que c'était chez lui, c'est vrai avec Boko Haram, mais que c'était vrai aussi en Libye, qu'une bonne partie des armes envoyées par l'Occident en Ukraine arrivaient directement en Afrique. Et il a cité le chiffre de 30% du volume. Pas des bricoles, pas juste une caisse détournée ici-là. C'est un circuit systématique organisé qui permet de poursuivre des activités illégales, terroristes, djihadistes sur le sol africain. Et à cette occasion, on a pu lire quelques chiffres. Alors je vous les livre parce qu'ils sont intéressants. Je vous disais que dans les réticents à organiser une élection et à laisser la place à un vrai gouvernement gouvernant la totalité de la Libye, avec les pouvoirs se faisant respecter au niveau international, il y a les trafiquants d'hommes. On estime aujourd'hui, et c'est un chiffre qui est probablement le chiffre minimum, et écoutez bien, qu'il y a aujourd'hui sur le sol libyen, dans les différentes formes de prison organisées par les passeurs, 600 000 Africains en attente de transfert en Méditerranée. 600 000. Mais d'autres chiffres sont plus élevés que ça, puisqu'il y a d'autres observateurs qui sont entre 1 million et 1 million et demi. C'est-à-dire que ce stock de malheureux Africains qui viennent tenter leur chance ou qui voudraient tenter leur chance en Europe parce qu'ils sont mal dans leur pays, qu'ils sont mal nourris, qu'ils ont subi toutes sortes de répressions, ce stock est laissé là et il permet l'enrichissement de trafiquants d'hommes. Là, voilà un beau sujet pour l'ONU, voilà un sujet dont l'ONU ne s'intéresse pas, parce que l'ONU laisse faire, laisse cette transition rester transition aussi longtemps qu'il faut, parce que ça permet de faire prospérer ce business. Mais ce business, c'est du trafic d'êtres humains, c'est condamnable. Hein. Mais tant qu'il n'y aura pas un vrai gouvernement en Libye, personne ne s'en occupera. Et chacun dira, ben, on ferme les yeux. L'important, et alors c'est prouvé d'ailleurs, c'est qu'on puisse continuer à exporter notre pétrole et qu'il n'y ait pas trop de contrôle sur les factures, puisqu'on sait pas trop. On sait qui le produit, parce qu'on sait qui tient le puits. hein, mais on ne sait pas trop qui le paye ou qui l'achète, parce qu'il y a des intermédiaires, et finalement, il y a des gens qui apparemment ont les mains très propres, qui de loin disent « j'ai reçu du pétrole libyen, mais il est passé par des intermédiaires, et on n'a pas vu circuler les chèques ». C'est la politique de l'Occident dans ce genre de territoire, c'est-à-dire on détruit un pays, et après c'est un lieu où la corruption, les droits de l'homme, la corruption sévit, les droits de l'homme sont niés, les trafics d'êtres humains se développent, et tout ça avec la bénédiction, en fait, le laisser-faire de la communauté internationale. Alors on peut remercier, enfin je mets le remerciement entre d'énormes guillemets, le camarade Sarkozy, je mets camarade entre guillemets aussi, pour avoir pris toute sa part et a été un des principaux protagonistes de la destruction de l'État libyen. Voilà le travail. On est donc 12 ans après, quasiment, et donc la Libye ne fonctionne pas, et la Libye est entre les mains d'intérêts particuliers, tous moins présentables les uns que les autres. À la limite, le pétrole, c'est presque le moins pire, hein, puisque ça, c'est des fausses factures, c'est moindre mal comparé au trafic d'êtres humains, et je veux dire, à cet énorme stock d'Africains qui attendent, opprimés, maltraités, les femmes sont toutes violées, tous les hommes sont battus, pour, et plus la partie qui meurt en mer, en Méditerranée, on le sait. Mais ne vous étonnez pas, même le propos n'est pas cynique, mais si quelques 500 personnes sont sur un bateau, considérez que ce n'est rien par rapport à cette énorme réserve de 600 000 personnes qui attendent de passer. Et ces 600 000, ils sont convaincus que même s'il y a 1% d'entre eux ou 10% d'entre eux qui vont mourir en mer, tous les autres, les 90%, vont y arriver. C'est ça qui est absolument horrible dans le fait qu'on maintient cette situation. Hein, parce que vous ne pouvez pas enlever de la tête d'un jeune homme ou d'une jeune femme de 20 ans qui est parti parce qu'il avait la vie impossible dans son pays et qui dit ben, « je sais, je suis là, je suis en attente en Libye, mais je sais qu'il y a une chance sur 10 pour que j'y reste dans la traversée, mais il y a 9 chances sur 10 pour que j'arrive. Et donc j'irai de toute façon. Hein. » Que faites-vous ? Rien. Vous faites rien. Si vous faites couler de fausses larmes parce que... Voilà, exactement. Hein. C'est un nouveau circuit. Hein. On a soi-disant aboli l'esclavage. On l'a réinstallé sous cette forme-là. Et la Libye est un instrument de l'esclavage contemporain. Voilà. Je voulais le dire parce que on donne pas les proportions du phénomène. Alors autant il est normal et c'est tout à fait appréciable que des gens essayent de défendre ceux, les quelques milliers qui ont traversé, autant il est inadmissible que nos gouvernements ne fassent rien en sachant très bien que le potentiel d'exportation de migrants est énorme et que rien n'est fait pour empêcher qu'ils ne se développent pas. Voilà, sur la Libye. Et donc je rappelle au passage, donc c'est le président nigérian qui a cité ça, et il a dit « des armes d'Ukraine destinées à l'Ukraine, il y en a chez moi, il y en a en Libye, et il faudrait quand même que ça cesse hein. ». Et il dit, je vous dis son estimation, c'est que 30% du matériel occidental qui arrive en Ukraine repart directement en Afrique, c'est-à-dire ne sert pas, et ça fait partie du jeu, ne sert pas à la guerre en cours en Ukraine, qui se poursuit par ailleurs. Bien. Je voulais aussi vous dire quelques mots, avant qu'on passe à la Syrie, je voulais vous dire quelques mots du procès de Christina Kirchner. Très brièvement, alors je pensais pouvoir en dire plus parce que c'est aujourd'hui normalement que le jugement est rendu contre elle, mais ce qu'il faut que vous sachiez, on en reparlera la semaine prochaine, c'est que Christina Kirchner, elle est inculpée et elle a un procès à titre personnel parce que en fait, elle s'est opposée, elle et son mari, qui était au pouvoir avant qu'il ne décède lui-même, se sont opposés à la dictature du Fonds monétaire international. Et donc elle dit très justement dans une interview qui a été faite hier, on s'en prend à moi, mais en fait on s'en prend pas à moi, moi je suis un symbole, je suis le symbole de l'opposition d'un pays qui était soumis au diktat du FMI et qui a refusé de se soumettre. Bon. Et donc ce pays est tellement travaillé, tellement proche des États-Unis qu'il y a une bonne partie de la classe politique et une très grande partie, voire la quasi-totalité de la magistrature qui sont entre les mains des États-Unis et on veut punir cette partie de la société donc argentine, hyper libérale, très américanisée, et la magistrature argentine veulent punir Mme Kirchner, non pas pour ce qu'elle a fait, mais parce que tout ce qu'on lui reproche est faux, mais parce qu'elle a tenu tête au Fonds monétaire international. Et elle l'a fait d'une façon extrêmement brillante, puisque j'ai souvenir d'un discours qu'elle avait prononcé à la tribune de l'ONU, on disait « on ne veut pas », ou elle disait « on ne veut pas de ça ». Ça ne lui a jamais été pardonné, elle est en prison, elle va probablement y rester malheureusement, parce que la justice est totalement entre les mains des intérêts américains extérieurs. Mais j'en reparlerai certainement la semaine prochaine. Bien. Et puisque je fais un dernier lien, puis on fera une petite pause musicale, puisque l'Argentine a aussi le pays où le pape François, celui qui est aujourd'hui le pape François, a fait ses armes. Il est argentin de naissance. Donc on parle du pape François à propos de l'Ukraine, parce que le pape François, qui était resté un peu, enfin qui n'avait pas beaucoup parlé de cette question-là, avait fait des discours un peu, c'est dommage que la guerre pacifique, oui, peut-être mal informé, il était resté, disons, dans une relative neutralité, c'est dommage qu'il y ait la guerre. Là, il a complètement basculé. Alors, il faut savoir qu'il bascule au moment où il a mis son poste en cause, puisqu'il est démissionnaire. Vous savez qu'il y a aujourd'hui toute une procédure de présélection de candidats. Il a décidé qu'il était trop fatigué, peut-être trop âgé, etc., pour continuer à exercer cette charge. Et il a décidé, donc, qu'il y aurait un conclave qui élirait un nouveau pape à sa place, qui devrait se tenir cette année. Bon. Ça n'enlève rien au fait qu'il a totalement basculé dans le camp occidental et qu'il a totalement basculé dans la dernière façon de traiter le conflit en Ukraine, c'est-à-dire la guerre de religion. Hein, donc le pape... Tout à fait. Donc le pape a dit, c'est clair, la Russie a tort. Et en fait, il a réavivé un conflit qui est historique dans toute cette partie-là de l'Europe, puisque vous savez, en gros, c'est quelque part entre l'Ukraine, la Pologne, que passe la ligne de séparation, j'allais dire même de fracture de la chrétienté. Alors, fracture à certains moments, séparation à d'autres, mais de toute façon, la limite entre le catholicisme et l'orthodoxie passe quelque part par là. Et donc là, clairement, l'acte du pape François, qui est un acte grave à mon sens, consiste à dire, cette fracture, je la réouvre, je fais couler des mauvaises paroles, j'invite la population ukrainienne à prendre part à une guerre de religion, une guerre du catholicisme contre l'orthodoxie. Ce qui est tout à fait dommageable, puisqu'il faut savoir qu'en plus, aujourd'hui, à ce qu'on sait, la majorité des Ukrainiens croyants seraient plutôt orthodoxes. Mais il essaye de rallier, et c'est peut-être une des dernières tentatives de l'équipe de Zelensky de rameuter une partie de l'opinion ukrainienne dans leur camp. Bon. Ça me paraît, je le cite, pourquoi il l'a fait, il y a peut-être d'autres raisons plus profondes qu'on ignore, ça me paraît tout à fait regrettable parce qu'il manquait encore cette dimension donc, de guerre de religion sur le sol ukrainien. Il l'a réintroduite et, comme par hasard, le gouvernement de Kiev y a fait écho puisque le gouvernement de Kiev a mis hors la loi l'Église orthodoxe qui dépend donc du patriarche de Moscou et s'apprête à saisir tous les biens de l'Église orthodoxe. Donc la coïncidence, c'est pas une coïncidence, la simultanéité de l'intervention du pape et de l'action gouvernementale de Zelensky à Kiev fait que c'est un coup monté pour diviser la population ukrainienne entre catholiques et orthodoxes. Donc réintroduire la dimension de guerre de religion, qui est, vous savez, une des dimensions les plus favorites des semeurs de désordre et qui souvent fait énormément de morts parce qu'elle fait appel à des convictions qu'on ne négocie pas. Autant on peut négocier sur des intérêts économiques, on négocie beaucoup moins sur des intérêts ou sur, une fois qu'ils ont été chauffés, sur des conceptions religieuses de base qu'on fait s'affronter. C'est un vieux classique, la Syrie y a échappé, mais avec difficulté. Et on va parler de la Syrie après avoir entendu un petit... Ah non, on le fera plus tard. On va parler de la Syrie parce que... Oui, non, on le fera plus tard. On passe tout de suite à la Syrie parce que, comme on vous l'avait annoncé la semaine dernière, donc Habib est revenu de son voyage humanitaire en Syrie avec un livre donc, écrit par un archevêque catholique syrien qui vit une vie tout à fait normale et tranquille sans guerre de religion en Syrie et qui écrit et qui est très au courant, qui écrit d'abord un très très beau français et qui est très au courant de l'actualité internationale, qui suit avec beaucoup d'avidité et qui donc a publié un livre dont aujourd'hui Habib va vous lire un premier extrait. Vous allez voir que c'est tout à fait intéressant. Donc, je te laisse le présenter. C'est une lettre. Donc, il est coutumier du fait d'écrire des lettres à des chefs d'État. C'est une lettre, donc, de 2001 à George W. Bush.
Oui, c'est une lettre ouverte d'un prêtre arabe au président américain George Bush. Cette lettre a été écrite le 30/8/2002.
Voilà.
Monsieur le Président.
Mets-toi bien devant le micro. Ouais. C'est bon ?
Monsieur le Président, dans quelques jours, ça sera le premier anniversaire des tristes événements du 11 septembre. Je vous ai écrit alors pour vous présenter mes condoléances. Moi, prêtre arabe, je n'ai pas reçu de réponse ni d'accusé de réception. Il me plaît de vous dire que depuis 1966, j'ai écrit à l'un ou l'autre des présidents des pays occidentaux, ainsi qu'à leurs femmes, et pas un seul d'entre eux ne s'est privé de me répondre. Aujourd'hui, je voudrais vous écrire, sans prêter aucune importance à l'attente d'une réponse de votre part. Celle m'y incline ma conscience. Monsieur le Président, lors de votre élection à la présidence des États-Unis, s'est produit les jeux étranges dans l'État de Floride. Beaucoup d'Arabes ont craint votre défaite devant votre adversaire, M. Al Gore, qui flattait le sionisme d'une façon écœurante. Mais ce qui s'est produit depuis la proclamation de votre victoire nous a amené à reconnaître que tous les présidents des États-Unis, depuis la seconde moitié de la sixième décade du XXe siècle jusqu'à nos jours, n'étaient que les valets d'Israël. Ce furent ensuite les événements du 11 septembre. C'est alors que par votre accusation précipitée et radicale à l'encontre des Arabes et des musulmans, ainsi que par votre malheureuse déclaration de la croisade contre nous, vous avez donné la preuve décisive que vous êtes plus sioniste que les sionistes. Et depuis, vous mettez toute votre fierté à déclarer votre allégeance continuelle à la politique d'Israël, aux dépens de votre conscience et des plus élémentaires principes et concepts moraux et politiques, aux dépens de toute la législation et résolution internationale. Ainsi, bien sûr qu'au dépend, en fin de compte, de votre propre pays, au niveau de sa constitution et de ses intérêts. Puis, il est devenu évident, non seulement aux Arabes, mais pour le monde entier, que vous avez été poussé et que vous vous êtes lancé sans couvert de lutte antiterroriste dans la pratique d'une politique qui vous permet d'exercer ouvertement le terrorisme contre tous les pays, exception faite d'Israël, pays terroriste par excellence qui lèse depuis sa fondation toutes les lois et les institutions internationales. Cependant, le pire que vous avez commis s'est fait quand vous êtes prostituée en qualifiant Sharon d'homme de paix. Ceci me remplit avec de nombreuses personnes à travers le monde des commisérations à l'égard des États-Unis pour s'être choisi un président de votre calibre en intelligence et moralité. On arrête là.
Oui, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors voilà. Alors il a écrit d'autres lettres. Donc, il faut la date. Alors, donc,
la suite, on le fera la prochaine fois.
Voilà, on pourra continuer la semaine prochaine parce que vous voyez le ton. Donc il s'agit. Alors c'est très important de dire la période. D'abord, c'est un discours à George Bush. Donc on est un an ou quelques mois après le 11 septembre. George Bush a donc assimilé pour le monde entier et face à toutes les caméras que un arabe c'était un musulman, forcément. Hein, sa première équipe. Or lui, c'est sûr, en tant qu'archevêque catholique vivant paisiblement en Syrie depuis qu'il y est né, il n'y a pas de souci. Donc l'équation arabe égale musulman est un facteur de désordre, c'est un facteur de guerre de religion, c'est, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, qui est entretenu parce qu'il profite aux États-Unis, ils s'en servent en disant les Arabes ceci, ou les musulmans ceci, les musulmans cela. Et on sait que par ailleurs, leurs amis, les Émirats, la monarchie saoudienne, financent donc la guerre de religion, il leur profite, qui finalement met du désordre dans les pays, et ces monarchies musulmanes, alors qu'elles qui sont officiellement musulmanes, ce qui n'est pas du tout le cas de la Syrie, qui n'est pas un pays musulman dans sa constitution, c'est donc monarchie musulmane, finance des groupes terroristes à idéologie musulmane. Voilà, c'est ça. Et donc ces groupes à philosophie, à théorie musulmane, financés par ces monarchies musulmanes, qui ont mis la guerre en Syrie. C'est ça qu'il faut savoir. Donc la Syrie, c'est très très
ça
bien de
été...
quoi...
Ça a été bien préparé, quoi, depuis 2010.
Voilà. Et donc, en fait, c'est cette litre-là, elle est une analyse qui était connue et qui était partagée en Syrie. On la retrouvera un peu plus tard dans d'autres lettres qu'il adresse à d'autres chefs d'État. Mais il faut savoir que cette position générale de George Bush, hein, les Arabes sont des musulmans, et les musulmans, il faut s'en méfier, ça, c'est déjà le feu. Je peux faire la guerre partout, c'est sa deuxième idée. Et puis, la troisième chose, c'est de dire, à partir de maintenant, les États-Unis vont se méfier. Alors, ils font un choix très, très clair. Entre ces pays musulmans, ils disent du mal des musulmans, mais en même temps, à aucun moment, ils ne se sont fâchés ni avec l'Arabie saoudite, ni avec le Qatar, ni avec le Bahreïn, ni avec les Émirats. Ils ne se sont fâchés qu'avec le seul pays musulman qui était laïque dans sa constitution, qui est la Syrie. Donc on a une préparation de longue date. Et si donc la guerre de Syrie commence 10 ans plus tard, c'est qu'en fait, elle a été préparée pendant toute cette décennie.
Avant la guerre de l'Irak, en principe.
Tout à fait, oui, oui. Et on voit dans les textes du Congrès des États-Unis toute une série de législations qui introduisent la méfiance et les sanctions contre la Syrie, qui se sont aggravées depuis, mais elles sont déjà, dès 2004. Donc là, il y a un continuum, et effectivement, le père Zarlaoui a tout à fait raison de dire voilà ce que vous avez fait, on sait qui vous êtes, je sais qui vous êtes, je comprends, et vous appuyez sur la position d'Israël, et vous êtes un fauteur de guerre, puisque ça a été je déclare la guerre à tout le monde. C'était en gros, je peux faire la guerre à tout le monde. Voilà pour cette lecture, on en aura d'autres, et ça m'amène à vous donner lecture d'un texte qui a été publié sur un site espagnol. Bon, ça n'a pas beaucoup été traduit en français.
Les stylos.
Oui, pardon.
Merci.
Qui a été, donc, c'est une interview. Donc, alors, il y a aux côtés de Bachar el-Assad, le président syrien, une conseillère qui s'appelle Madame Bouzaïna Chaban, qui est une collaboratrice de très très longue date, même du père de Bachar el-Assad, Hafez al-Assad. Et elle a fait une déclaration que je vous lis rapidement, le 24 novembre, et elle dit la chose suivante. « Je considère aujourd'hui que la résistance de mon pays, depuis 12 ans, hein, puisque 2011, est la clé des transformations qui se produisent en ce moment sur la surface du monde. » Donc elle dit, ce qui est en train de se développer aujourd'hui, ces tensions internationales et tout, c'est lié au fait que la tentative, comme celle de la Libye, de renverser le gouvernement syrien a raté. Et donc c'est le fait que cette opération est ratée qui montre que des changements sont en cours. Et elle dit, il n'y a pas d'autre alternative que de demeurer ferme et de continuer notre marche en avant par tous les moyens possibles et avec l'appui de nos amis et de nos alliés et de faire front aux pays d'Occident qui prétendent dominer toutes les nations et prendre la place dans leurs décisions. Elle dit, je considère que l'objectif des guerres lancées actuellement par l'Occident... c'est de fracturer les nations. Alors, j'en parlais pour la Libye, pour la Syrie, ça a raté. De toutes les nations et la formation de blocs régionaux contre certains pays avec des décisions souveraines. C'est organiser autour, par exemple, de la Syrie, un bloc qui voudrait la mort de la Syrie, comme on a essayé mais ça, d'organiser autour de la Libye un bloc de gens qui veulent du mal. Bon, ça n'a pas très bien fonctionné pour la Libye, mais en état, la Libye, elle est dans l'état que je décrivais. Et ensuite... elle ajoute les troubles qui existent en ce moment en Iran répondent à un plan systématique et à une stratégie des États-Unis pour affaiblir la nation perse et la Russie. Et je considère que cette ultime lutte est pour un monde, je considère que cette lutte donc, du gouvernement iranien est une lutte pour un monde multipolaire. Je qualifie, parce qu'elle fait allusion aux événements les plus récents sur le territoire syrien, de tentative de la Turquie de bombarder le nord de la Syrie. Je manifeste qu'aucun pays n'a le droit, écoutez bien, je considère qu'aucun pays n'a le droit de défendre sa sécurité à l'intérieur des frontières d'un autre. Ouais. Phrase clé. Hein. C'est exactement ce qui se passe dans le nord de la Syrie, où le gouvernement turc prétend régler la question des troubles intérieurs qu'il a lui-même favorisé, engendré avec la minorité kurde.
Exactement.
Donc écoutez bien, je considère qu'aucun pays n'a le droit de défendre sa sécurité à l'intérieur des frontières d'un autre. Et effectivement, ça veut dire à la Turquie, vous avez un problème avec les Kurdes qui n'est pas d'hier, qui est séculaire, multiséculaire, réglez-le, mais ne le réglez pas en venant bombarder le sol syrien et en occupant une partie du territoire d'un autre. Voilà ce que dit donc Mme Bouzena Chaban. Donc c'est une personne très très proche du président syrien.
C'est le porte-parole. Oui, voilà. Bon, elle était secrétaire déjà pour son père durant toute l'époque.
Très très fidèle.
Toute l'époque très fidèle.
Très fidèle. Voilà. Et puisqu'on a parlé de la Libye, on va arriver à une petite audition, mais avant je voudrais la présenter. Il est envisagé, c'est même décidé, c'est plus que ça. Vous savez qu'il y a eu déjà un changement dans la République française, c'est-à-dire que pour devenir ambassadeur, il n'est plus besoin d'avoir la formation du Quai d'Orsay. Ça, c'est un décret que Emmanuel Macron a pris dans les derniers jours de la campagne présidentielle dans la plus grande discrétion. C'est-à-dire que n'importe qui peut être nommé ambassadeur sans aucun métier de diplomate. Bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères français, considérant que les médias, même francophones comme RFI, par exemple, ne sont pas assez engagés dans la défense de la France sur le territoire africain en particulier, est en train de préparer le lancement d'une chaîne du ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire là, on n'est plus dans un média, on est un ministère, donc le gouvernement, qui veut avoir une chaîne à lui pour modeler l'opinion, parce que ce dont le gouvernement se rend compte, c'est que l'impopularité française, ou moins des autorités françaises, il ne s'agit pas de l'impopularité des citoyens français qui travaillent au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, il s'agit de l'impopularité du gouvernement français, est arrivé à un tel niveau que le gouvernement français se trouve dans l'obligation, enfin c'est lui qui le pense, de faire une chaîne, donc une chaîne qui sera payée par le ministère des Affaires étrangères, donc par vous et moi, par nos impôts. Alors je mets ça en relation avec M. Macron qui nous dit qu'il nous fait faire des économies parce qu'il supprime la redevance télévisuelle. Oui, mais en même temps, c'est nous qui allons payer la chaîne de propagande du ministère des Affaires étrangères. Elle est bien bonne, j'allais dire. Hein. Donc il enlève d'une main et il fait payer de l'autre. Bon. Alors cette chaîne démarrera l'année prochaine ou en 2024. Elle sera donc pas directement gérée et par les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, le ministère passera un marché avec une chaîne qui fera le travail de propagande qui sera dans le cahier des charges, hein, pour dire « la France est gentille, la France vous aide », etc. Enfin, on imagine très bien le discours qui sera fait. C'est ça le gouvernement Macron aujourd'hui, on ne se rend pas assez compte. C'est-à-dire, d'une part, cette espèce de jeu de passe-passe, ce jeu de bonneteau sur je vous abaisse les impôts et par ailleurs je vous prends de l'argent sur autre chose. Donc, financer sur fonds publics, dans le budget de l'État, une chaîne de propagande pour les Africains, c'est quand même quelque chose qu'on ne nous a pas expliqué, mais c'est nous qui allons le payer, quoi qu'il arrive. C'est ça que je voulais souligner. Et pour bien illustrer l'énorme travail qu'il y a à faire pour que cette chaîne produise les effets que M. Macron en attend, je vais vous faire passer un extrait absolument décisif du discours de M. Nicolas Sarkozy à Dakar, où en quelques minutes, il déconsidère la France pour des siècles, j'allais dire, ou au moins pour des décennies. Donc on écoute. Alors c'est pas de très très bonne qualité, je l'ai repiqué ailleurs, mais les quelques minutes, et puis on les commentera après, sont absolument extraordinaires de bêtises, de vulgarité et de racisme. On écoute.
C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin.
C'est trop à la fois, c'est trop à la fois. Et en même temps, Louise nous faisait part du fait qu'elle avait travaillé sur ce discours quand elle était, c'est ça, étudiante en ethnologie.
Oui, j'étais en anthropologie.
En anthropologie. Et donc, voilà, c'est un monument. C'est un monument d'ethnocentrisme, de bêtises, de courte vue. Et puis, c'est nier la capacité humaine. Alors, c'est considérer le paysan africain comme ce qu'appelait Hitler un Untermensch, un être inférieur qui est incapable de comprendre ce qui lui arrive, qui est incapable d'évoluer, qui ne réfléchit pas, qui reproduit toujours les mêmes gestes. Enfin, on renvoie l'homme africain à Sapiens, hein. C'est rien d'autre, il n'a pas bougé. Et alors, je signale, parce que j'ai pris ça à partir d'une vidéo, et on voit, et c'est encore plus consternant, que ce monsieur, président de la République, lit un texte qui est une horreur en soi. Il se reporte à chaque phrase sur son texte, il est au pupitre, comme dans ces situations classiques, il se reporte, il le lit. C'est-à-dire que c'est un texte, on savait que ce n'est pas lui qui l'avait écrit, et il se sent capable, il est là juste comme un comédien, de série B, j'allais dire.
Comme Zelensky.
Voilà, qui lit un mauvais texte préparé à un autre. Alors, je ne fais pas de compliment. Enfin, je crois savoir qui c'est l'autre. Mais enfin, bon, ce n'est pas la peine de l'achever. Et qui est là en mission pour délivrer un discours stupide, un discours qui a beaucoup fait. Alors, si maintenant M. Macron veut faire une chaîne pour dire qu'il faut qu'on dise que la France, elle est gentille et intelligente, il y a énormément de retard. C'est-à-dire, ce texte a énormément fait de dégâts en Afrique. Oui. Il a été révélateur de dire, mais finalement, c'est comme ça que la République française nous voit, comme des obscurantismes, impossibles de progrès, impossibles de réflexion. Enfin, on est un peu plus que des singes, mais on n'est pas encore si loin. Jusque-là, c'est absolument épouvantable. C'est ça, la République française, qui ne s'est pas améliorée avec Hollande. Et là, on voit bien Macron essayer de sortir, de donner une autre image. Alors, mais c'est un peu hypocrite, parce que c'est donc la chaîne, je le précise, la chaîne donc, du Quai d'Orsay. Ce ne sera pas la chaîne du Quai d'Orsay en tant que telle. On l'appellera, elle sera l'émanation de la maison des mondes africains et des diasporas. Ça permet de dire, c'est pas vraiment nous, mais c'est quand même nous. Mais de toute façon, le financement, c'est le Quai d'Orsay qui fera le cahier des charges et qui passera un marché avec une agence de com. C'est rien d'autre. C'est-à-dire que Macron a eu l'astuce de se rendre compte qu'il pouvait pas aller réitérer le discours de Sarkozy, que ça passait plus, que c'était impossible, qu'il se ferait lyncher, etc. Hein, et donc, il va confier à une boîte de com la tentative de rectifier cette image. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Hein, c'est trop tard. Puisque beaucoup d'Africains ont compris, ils ont dit, ben voilà comment ils nous traitent, et on est maintenant, on a fait le tour, et précisément, le boomerang lui revient à la figure, c'est-à-dire, ils sont incapables d'évoluer, mais ils ont évolué, pas dans le sens de la République française, ils ont tellement réfléchi depuis que tu as tenu ce discours à Dakar, et depuis d'autres événements, que maintenant, ils savent exactement à qui ils ont affaire, aux Français CFA, aux entreprises multinationales françaises d'origine qui trustent tout, dans les télécommunications, dans la banque, dans le commerce, etc. Ils ont fait le tour de la question. Donc, alors après, on nous dit, ah oui, mais l'influence chinoise, l'influence russe et tout. Mais vous avez une position, vous êtes plus présentable, et donc d'autres viennent dire, ben nous, on va vous aider, puisque de toute façon, vous les aimez plus, et vous avez raison de ne plus les aimer.
Hein. Ça, c'est la francophonie, quoi.
Bien sûr, alors c'est la francophonie, qu'est-ce qu'on en fait, voilà. La francophonie, on l'a mis entre les mains, je le disais récemment, d'une Rwandaise dont le gouvernement parle anglais à longueur de temps. Bon, et à propos du Rwanda, je redis ce que j'avais déjà évoqué, c'est-à-dire qu'il y a à nouveau des affrontements, malgré donc un cessez-le-feu dans la région est de la République démocratique du Congo, et ces derniers jours, la Russie s'est exprimée en disant que c'était absolument insupportable qu'il y ait des bandes armées soutenues par le Rwanda, hein, le fameux M23, qui empêche le gouvernement du Congo, de Kinshasa, d'être maître chez lui. Alors j'ai expliqué ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire il y a toutes les exploitations minières illégales et frauduleuses qui se passent sur cette partie du territoire de la République du Congo. Ce que la Russie dit, alors la Russie le fait peut-être, on va dire, c'est de l'opportunisme politique, mais évidemment, mais c'est tellement facile pour la Russie de dire, écoutez, on voit ce qui se passe, on sait pourquoi le Rwanda fait ce qu'il fait, puisqu'il vient piller les ressources de la RDC, et nous, on considère que la RDC doit être respectée en tant qu'État souverain, et que l'État du voisin, d'à côté, qui lui est soutenu par les États-Unis, ne doit pas piller les richesses de la République démocratique du Congo. Point, c'est tout. Mais évidemment, mais ce discours la passe parce qu'il est vécu par les Congolais depuis... Ça fait 30 ans que ça dure, en plus. Il est vécu, il est réel. Et donc, que la Russie se mette en valeur en disant ben, « Je mets le doigt là où vous n'êtes pas propres, les Occidentaux et vos amis rwandais », pourquoi le ferait-elle pas ? Je veux dire, pourquoi ne dirait-elle pas cette vérité-là, qui en est une ? Alors après, qu'il y ait des intérêts russes derrière ? Il y a probablement des intérêts russes. Ne rêvons pas. On n'est pas dans un monde de gens très gentils et qui lisent des contes pour enfants. Mais il y a une vérité que la Russie exprime, parce que de toute façon, la France est tout à fait dans l'incapacité de l'exprimer, puisqu'en fait, elle soutient le Rwanda et qu'elle se moque absolument de l'avenir. Il y a quand même 110 millions de Congolais qui aimeraient bien vivre des ressources de leur pays autant que possible et qu'on ne les leur vole pas. Même si c'est un pays compliqué, grand, etc., qui a beaucoup de retard dans ses équipements. C'est ça la réalité. Bon, donc c'était intéressant de faire écho à ce discours de Nicolas Sarkozy, parce que c'est ce qui a enfoncé la France dans cette mauvaise image justifiée qu'elle a aujourd'hui sur tout le continent africain, et en particulier dans les pays francophones. Donc on est tout à fait au clair sur ces choses-là. Dernière chose que je voulais évoquer, on va faire un petit peu d'économie pour terminer. Vous savez que l'Organisation internationale du travail, qui fait un travail régulier, alors qui a été créée, vous savez, je rappelle un peu l'histoire de l'Organisation internationale du travail, qui siège à Genève, qui est un organisme international qui a été créé en 1921. Donc ça n'a rien à voir avec l'ONU. C'est une histoire très différente. Je l'explique en quelques mots. En 1921, qu'est-ce qui se passe dans les grandes puissances, donc les puissances coloniales de l'époque, hein, la France, la Grande-Bretagne, enfin les maîtres de la situation à ce moment-là, ils se disent « Ah, on est en 21, il y a eu une révolution bolchevique en Russie. » Bon, le tsar est tombé et on a des bolcheviques, des communistes qui ont pris le pouvoir. Alors ils essayent bien, on est encore en 21, de les faire tomber, ils vont susciter la guerre civile, envoyer des armées, etc., des armes pour soutenir les Russes blancs, mais ça ne marchera pas. Et ils disent, au fond, il faut qu'on fasse un effort, écoutez bien, parce que ça a toujours de la valeur, il faut qu'on fasse un effort pour que nos classes ouvrières, la classe ouvrière des États-Unis, la classe ouvrière française, la classe ouvrière allemande, la classe ouvrière britannique, ne soient pas tentées de faire la même chose que ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg, devenu Leningrad. Alors comment faire pour éviter ? Eh bien, il faut peut-être un peu donner de meilleurs droits aux travailleurs, un peu augmenter les salaires, augmenter la sécurité sur les lieux de travail, augmenter la prévention médicale, etc. Il faut faire un effort. Et pour faire cet effort-là, ils créent, et donc c'est une fabrication de l'Occident qui est terrorisée par la révolution soviétique, bolchevique, c'est une organisation qui est destinée à faire avancer un certain nombre de revendications sociales pour couper l'herbe sous le pied aux communistes. Elle est organisée de façon très particulière, puisque c'est une organisation tripartite avec trois parties. Il y a une représentation des États, une représentation des patronats, donc par chaque patronat national envoie des délégués, et une représentation syndicale. Et donc, c'est un endroit qui est relativement discret, mais où on sait exactement l'état des rapports sociaux dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde, quasiment, sont membres de l'OIT. Alors, on ne fait pas beaucoup de bruit, et puis, mais on est, quand on se met autour de la table dans une réunion de l'OIT, il y a un patron, enfin des patrons, des syndicats, des ministres du travail, et on peut pas se raconter, quand ces trois personnes sont autour de la table, on ne peut pas se raconter des histoires. Tout le monde, les trois qui sont là, savent d'une façon ou d'une autre, par des biais différents, les syndicats avec leurs adhérents, les patrons avec les patrons qui sont syndiqués, les États, parce qu'il y a un ministre du Travail, il y a des inspections du travail, tout le monde sait de quoi il parle. Donc, on ne fait pas de cinéma. On ne fait pas de cinéma, on regarde les chiffres et puis on regarde si on peut faire des efforts. Parce que le but était, et reste toujours à l'OIT, d'éviter les révolutions et de donner un petit peu d'argent du capital au travail, pour que le travail ne se révolte pas. C'est tout à fait clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors l'OIT sera intégrée après dans le mécanisme de l'ONU, mais elle continue à avoir son propre mode de fonctionnement, ses propres statistiques et ses propres modes d'élaboration de son discours, parce qu'elle l'élabore de la façon dont je vous l'ai dit, avec les États, les patronats et les représentants ouvriers, ce qui est très très différent de l'élaboration des statistiques à l'ONU ou dans d'autres coins. Ce que fait l'OIT, ce qu'elle a fait récemment, elle a fait un rapport sur la question des salaires. Et je finirai là-dessus. Parce qu'ils tiennent les statistiques au jour. Ils disent, voilà ce qui se passe. C'est qu'il y a un intérêt du grand patronat et surtout des grandes banques internationales, à commencer par la Réserve fédérale aux États-Unis, à contrôler l'inflation. Et donc, ce qui sort de leur conclusion, et je le cite parce qu'il faut que chacun le sache, chacun de vous qui soit salarié, militant syndical, le sache, la recommandation qui sort, enfin le constat qu'ils font, c'est que les grandes banques et le système bancaire international, donc en particulier la Réserve fédérale des États-Unis et les autres banques centrales qui suivent, Banque centrale européenne, Banque centrale britannique et tout, ont dit « ne lâchez pas sur les salaires, ne lâchez pas sur les salaires ». Parce qu'il faut encore que la cure d'amaigrissement du monde du travail continue. Et ça, ils ne le disent pas, ça ne fait pas partie du travail de l'OIT. De toute façon, aujourd'hui, il faut de l'argent d'abord pour la guerre et pas, comme aurait dit Mussolini dans sa formule, pas pour le beurre. Donc pas de beurre, mais donc plus d'armement. Qu'il aille au Nigeria, en Libye ou ailleurs. C'est ça la conjoncture dans laquelle nous sommes. Tous les efforts, alors, tout ce qu'on nous raconte sur la protection de la planète, tout ça c'est du bidon. Parce que imaginez bien qu'une guerre comme celle qui se passe en Ukraine, comme celle qui se passe encore en Syrie, qui se passe au Yémen, etc., ça consomme énormément d'énergie, ça pollue beaucoup. Et donc, en fait, tout ce qu'on nous dit sur la protection de la planète est une sinistre farce, parce que tant que ces guerres-là continuent, tant que l'impérialisme organise la guerre et maintient la guerre partout, la lutte contre la pollution, c'est le cadet de ces soucis. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Merci, Louise. On se retrouve mardi et mercredi prochain.
Ouais, je vais t'écouter. Ciao a tutti.